C'est l'une de nos plus grosses erreurs, c'est qu'on on a délégué, mais on s'est trop désengagé en fait de ce qu'on avait délégué. Et déléguer, c'est pas se désengager de quelque chose, parce qu'on doit quand même venir challenger les gens à qui on a délégué, et les gens à qui on a délégué doivent quand même nous reporter, et on doit être là pour qu'ils nous rendent des comptes.
Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti! Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs, j'ai eu le plaisir d'accueillir Thibaut Letreut, fondateur et de Check & Visit, la première plateforme de collecte de données immobilières. Salut Thibaut.
Salut.
Alors bienvenue sur ce podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs. Je suis ravi de t'accueillir et d'échanger avec toi. Tu es l'un des fondateurs de Check & Visit, entreprise composée aujourd'hui de 75 personnes pour un CA qui dépasse les 4 millions et une entreprise qui vient de lever 12,5 millions en série A. Tu nous expliqueras plus en détail le process. Ton histoire, c'est celle d'un homme qui a débuté très tôt l'entrepreneuriat puisque tu as créé ta première société à 15 ans, dans l'impression sur textile notamment, qui a aussi créé un festival de musique solidaire en Bretagne avant d'investir jeune dans l'immobilier. Alors que tu voulais voyager à l'autre bout du monde, tu t'aperçois que la gestion des actifs immobiliers n'est pas encore facilitée par le numérique, que justement, si tu voyages, tu ne peux pas gérer tes biens immobiliers. C'est comme ça que tu en es venu à créer ton entreprise. Dans cet épisode, ensemble, on va parler de plusieurs sujets. Le premier, c'est ton parcours, comment tu as fait pour t'entourer, pour t'attaquer à un marché composé d'acteurs historiques, comment tu as fait pour aller sur un sujet tech, la prop tech, alors que toi-même, tu n'es pas tech au départ. On évoquera aussi la croissance externe. Et puis, on abordera ensemble tes apprentissages de chef d'entreprise, où tu en es aujourd'hui et où est-ce que tu vas maintenant. Trois chapitres au menu du jour. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de commercial dans les gobelets à entrepreneur dans l'immobilier. Ensuite, on se posera la question de comment tu as fait pour t'attaquer à un marché français composé d'acteurs historiques majeurs et dépasser les 100 000 missions en 5 ans. Et enfin, quelle est l'ambition et comment tu comptes y arriver. OK pour toi?
Ça me va, c'est parfait.
Eh bien, écoute, on y va. Avant de commencer, te laisser te présenter toi tout seul de manière libre en 2-3 minutes. Un message pour vous, chers auditrices, chers auditeurs. Inscrivez-vous si vous êtes fan d'entrepreneuriat à la newsletter du podcast Comment t'as fait. Il suffit d'aller sur le site commenttafait.fr pour recevoir les dernières nouveautés et actualités autour du podcast et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes plus livre papier plutôt que audio ou vidéo, je vous invite tout simplement à vous procurer le livre Comment t'as fait, dans lequel je synthétise les 80 premiers épisodes de ce podcast. C'est fini pour l'instant promo. C'est à toi Thibaut. Est-ce que tu peux te présenter de manière libre en 2-3 minutes?
Ouais, merci pour cette introduction. Donc, je suis Thibaut, CEO cofondateur de Check & Visit, qu'on a lancé maintenant il y a 5 ans. Je viens d'un petit village de Bretagne et aujourd'hui on est basé à Rennes. Donc j'ai fait un parcours assez classique, disons. J'ai fait une école de commerce, mais pas en prépa. Donc une école, on va dire, du milieu de tableau. Et assez rapidement, j'ai voulu donc rejoindre le côté professionnel avec des alternances, etc. Donc ce fameux commercial dans les gobelets. Et la particularité, c'est que très tôt, j'ai été, on va dire, orienté sur des business. Donc au démarrage, c'était mon père qui me ramenait des cigarettes de voyage que je revendais dans la cour du collège. Et en fait, j'ai commencé à trouver...
Qui n'a pas fait ça?
En tout cas, moi, je trouve, on n'était pas nombreux dans la cour. Et puis après, on faisait pas mal de skateboard. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ça serait super de créer une marque de skateboard qui s'appelait Cacahuète. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire les premières impressions sur textile. Et puis, ambitieux comme j'étais, à 14 ans, je me suis dit, bah, je vais aller plus loin, je vais créer un site de vente en ligne. Donc, ça ne se faisait pas aussi facilement qu'aujourd'hui à l'époque du no-code. Donc, je me souviens avoir acheté un livre qui s'appelait Internet pour les nuls, comment faire pour faire son site Internet. Donc, ça semblera un peu bizarre pour les plus jeunes, mais c'est comme ça que j'ai commencé et à m'auto-former. Donc, du coup, j'ai créé ce site à 15 ans. Et donc, à l'époque où il n'y avait pas de chat en ligne, j'utilisais MSN pour discuter avec du coup, mes clients en direct finalement et animer une espèce de communauté autour du skateboard. Et puis rapidement, j'ai commencé à importer mes premiers planches de skateboard à l'étranger. Et puis, c'était le début des ventes privées donc, qui sont aujourd'hui connues et reconnues. Et donc, j'ai commencé à faire ça à 16-17 ans pour importer et avoir vendu finalement mon stock au moment où il arrive. Donc ça, ça m'a emmené jusqu'à mes 18 ans. Et puis, c'est le moment où on commence à faire la fête. Donc là, j'ai commencé à organiser un certain nombre de soirées à thématiques. Et puis, à ce moment-là, un camarade de classe devait changer son fauteuil roulant parce qu'il était atteint d'une maladie génétique. Et un fauteuil roulant électrique, ça coûte très cher. Donc, j'ai voulu allier ce que j'avais envie de faire comme projet à du coup son enjeu. Donc, 3 années d'échecs pour organiser mon premier festival. Donc, entre-temps, il était bien sûr réussi à s'acheter son fauteuil. Mais du coup, j'ai fait ce festival à plus petite échelle où du coup, j'ai reversé tous les profits pour l'UNICEF. Donc, du coup, on arrive finalement à ce moment où j'arrive en école de commerce, un bachelor, donc post-bac parce que je ne voulais pas faire de prépa. Et à ce moment-là, eh bien, du coup, je fais des stages plutôt côté commerce, côté marketing. Et mes parents divorcent et du coup, ils me donnent la gestion de leur bien immobilier sur Rennes puisque je suis étudiant à Rennes. Donc, je découvre avec stupéfaction qu'on fait un état des lieux sur papier, que c'est on va dire, côté agence immobilière, pas toujours très bien suivi, alors que tout seul, on peut le faire avec Le Bon Coin assez simplement. Et donc, à 23 ans, je suis diplômé dans une entreprise de gestion de patrimoine avec... un message clé, c'est s'endetter pour mieux s'enrichir. Donc, c'est un peu moins vrai avec les taux aujourd'hui. Mais...
Non, oui.
et du coup je j'investis moi-même dans l'immobilier. Et c'est à ce moment-là que j'ai ces sujets un petit peu qu'on va voir tout à l'heure sur l'immobilier.
Écoute, déjà très riche, très dense. Et tu m'as fait déjà quasiment toute la première partie. Il y a plein de choses qu'on va aller creuser maintenant. Parce que maintenant, on voit un peu mieux finalement ton profil. Parce que dès tout petit, en fait, dès adolescent, tu as eu cette fibre quelque part un peu entrepreneuriale. Ma première question pour toi, c'est... est-ce que du coup, tu avais autour de toi des modèles entrepreneuriaux ou pas pour avoir cette appétence et se dire, tiens, d'une passion des skates ou du textile ou autre, je vais en faire un business?
Non.
Une activité commerciale?
Ouais, en fait, pas du tout. Ma maman est professeur des écoles. Mon papa est vétérinaire à la base et puis, et du coup, ensuite, passé dans des fonctions de direction générale pour des groupes de nutrition animale avec beaucoup de voyages. Mais j'avais personne autour de moi qui était. Commercial, qui avait une affaire, qui était entrepreneur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui prend son essence en fait à la braderie des enfants de Fougères, du coup de là où on vient.
Ouais, à côté de Rennes, ouais.
Et en fait, c'était donc 2 jours de braderie et moi ça me passionnait. Je prenais 1 mois et demi à refaire tous mes stocks, à noter tout sur des cahiers, à faire les étiquettes, etc., à me lever aux aurores pour vendre et faire la négociation. Et ça me tenait en haleine finalement toute l'année, quoi. Et donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à nouer une passion pour l'entrepreneuriat. Et puis après, comme je disais, mon père, plutôt que de me donner de l'argent de poche en échange de rien, entre guillemets, alors il aurait pu faire le fait que je sois bon à l'école, ce genre de choses, etc. Mais là, du coup, il m'a dit, si tu veux, c'est à toi si tu arrives à le vendre plus cher, en fait, dans la cour. Voilà, exactement. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Ce qui m'a permis d'ailleurs de fréquenter, on va dire, un peu les caïds du collège. Et du coup, ça m'a donné après plein d'autres idées de business que j'ai ensuite mis en place.
Plus ou moins parler, non?
Ah oui, on peut absolument parler. Ouais, c'était en gros d'aller chercher des modèles de Nike aux États-Unis sur eBay. Parce qu'eBay n'était pas très connu à l'époque. Donc en gros, je passais mon temps à me donner des modèles de choses que les gens n'arrivaient pas à trouver en France ou à un prix qui n'était pas accessible. Et moi, mon but, c'était d'aller le trouver à l'étranger, ouais. De l'importer à unitaire. Donc c'était microscopique. Mais voilà, donc j'avais fait ça avec... avec l'iPhone, l'iPod Touch, etc., ce qui m'a valu quelques déboires. Mais
Ouais, j'allais te dire tout ça, comment ça se passe? Tu crées une boîte à ce moment-là ou pas? Parce que tu fais quand même du commerce, même si c'est des volumes qui ne correspondent peut-être pas à une très grande boîte. Mais ouais, comment ça se passe? Tu es mineur en plus.
Ouais, je suis mineur, donc à cette époque, non, je ne crée pas de boîte. C'est vraiment, on va dire, comme ça, en tant que passe-temps, ce n'est pas des choses qui ont des volumes importants. Mais ça me permet en fait de développer cette fibre, de m'acculturer à des principes d'import-export, de trouver des modèles, de penser un petit peu plus gros en catalogue. Parce que finalement, après, il y a des gens qui revenaient régulièrement dès qu'il y avait des nouveaux modèles qui revenaient. Ou il y avait aussi des gens qui finalement ne trouvaient pas leur pointure. Tout simplement, en magasin, je me souviens d'un copain qui voulait des chaussures, mais en 49. En 49 en France on n'en fait pas beaucoup alors qu'aux États-Unis vu que c'est des morphologies un peu différentes. Oh, voilà, ouais. Exactement. Donc c'était super intéressant et c'est quand j'ai lancé le site de vente en ligne autour du skateboard que là vu que je devais voilà, avoir des factures, qu'il a fallu finalement créer une entreprise. Et donc du coup, pour ça, vu que j'étais mineur, bah, je me suis adossé avec mon papa qui a du coup créé une auto-entreprise de conseil à cette époque et du coup, par lequel le chiffre d'affaires et les factures d'achat transitaient. Et donc, on va dire, moi, j'opérais officieusement toute la gestion, quoi.
Ok, donc à un moment donné, tu es obligé quand même de rendre les choses officielles parce qu'il y a une activité qui est là et parce que ça prend aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, oui, et puis effectivement, quand je m'adresse à un distributeur en Chine, aux États-Unis ou même en France, en fait, à des marques, il faut bien qu'ils aient une entité sociale à facturer. Ouais. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était assez marrant parce que tous les soirs après le collège ou le lycée, j'allais sur MSN pour discuter avec mes clients, animer mes communautés sur les forums parce que je travaillais beaucoup sur les forums pour préparer les nouvelles opérations commerciales. Je faisais des contests en ligne pour toujours avoir du contenu à forte valeur ajoutée à leur proposer. Et du coup, c'est vrai que voilà, les gens, ils savaient pas qu'ils parlaient à quelqu'un qui avait 16-17 ans, quoi. Donc, c'était assez amusant de prendre ce ton un peu officiel sur MSN, ouais, sans mettre d'autres photos que le logo à l'époque, quoi.
Et c'est intéressant parce que tout ce que tu as fait, finalement, si on le transpose aujourd'hui, c'est les codes d'aujourd'hui. On parle de MSN, mais aujourd'hui, ce serait Slack ou d'autres outils de discussion instantanée ou WhatsApp. Les communautés, bah, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tout ça, tu l'as appliqué et c'était il y a quoi ? Il y a 10 ans, 15 ans ?
J'avais 17 ans, donc 93, ouais, c'était 2010, quoi. Mmh. Donc, sans m'en rendre compte, parce que j'ai jamais eu la prétention d'être visionnaire ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que si on regarde ce que c'est devenu, bah, le chat en ligne, il y a des CRISP, il y a plein de super boîtes qui se sont créées autour de ça. Et après, sur les communautés, c'était un peu à l'ancienne sur les forums, mais aujourd'hui, tout le monde essaye de créer sa communauté, de l'engager. Donc ouais, c'était complètement ça.
Ok, donc super intéressant. Pas forcément de modèle entrepreneurial autour de toi, tu disais. Pour autant, cette fibre-là, commerciale, en tout cas de vouloir faire un peu de business, elle te vient d'où ? Parce que tu aurais pu simplement consommer tes sneakers ou tes skates ou autre. Et puis, voilà, comment ça s'est fait ?
J'ai toujours voulu faire des choses assez hors du commun, un peu extraordinaires pour exister. Enfin, je me souviens que quand j'allais chez ma grand-mère, je voulais transformer son jardin en centre aéré pour tous les voisins. et du coup, elle ne le voyait pas forcément de cet œil ou faire des cirques. Donc, j'utilisais le chien de la voisine pour faire des numéros et demander après au chapeau à tout le monde de payer. Donc, je faisais des affiches. Donc, je ne sais pas, c'est né comme ça. Et du coup, finalement, l'entrepreneuriat est un moyen de l'exprimer dans une manière un peu cadrée. Et puis, c'est sans cesse de vouloir créer de nouvelles choses, de développer, d'emmener une idée jusqu'à sa phase de déploiement. Et après, c'est vrai que la phase où on commence à bien fonctionner, c'est quelque chose sur lequel je pense que je suis un peu moins bon, donc que je découvre et dont on pourra parler tout à l'heure sur notamment Check & Visit. Mais c'est vrai que c'est vraiment transformer cette idée et vouloir en faire quelque chose de grand. Et c'est de là que je tiens ça, je pense. Donc on a tous des fonctionnements, des moteurs. Le mien, c'est comme ça, quoi.
Chacun ses drivers et c'est intéressant. J'aime bien comprendre les drivers justement des invités du podcast, voir qu'est-ce qui les a menés, quel était le déclic en fait à se lancer. Toi, du coup, tu as eu ces premières expériences que tu as multipliées à l'adolescence. Ensuite, tu as choisi de poursuivre les études. Est-ce que le choix des études autour du commerce ont été justement influencées par ça, cette appétence, ou est-ce que non, on t'a influencé ou on t'a dit il faut que tu suives cette voie-là ? Comment ça s'est fait ?
Sur le commerce, non, parce que pour moi, c'était vraiment une évidence. Ouais. Donc, pendant longtemps, je voulais être vétérinaire et puis après, il me manquait quelque chose et c'était aussi beaucoup d'années d'études et j'étais un petit peu flemmard, même si j'avais des facilités. Ce côté d'étudier pendant 7 ans, 9 ans, c'était pas quelque chose dans lequel je me retrouvais. J'avais vraiment besoin d'avoir du concret finalement parce que je m'ennuyais un peu à l'école. Et le commerce alliait ça puisqu'on pouvait du coup aller faire des stages, des alternances. Donc c'est ce choix-là. Par contre, j'ai bien sûr été influencé parce qu'à un moment, après la seconde, nous, il fallait choisir entre S ou ES. Je m'étais un peu renseigné, j'adorais l'SES parce que on parlait de choses que j'avais jamais eu, auxquelles j'avais jamais eu accès jusqu'à présent, notamment l'économie et le social. Et là, on m'a dit non, fais S pour pas te fermer de porte, etc. Au final, j'ai pas fait de prépa, j'ai pas fait de. Enfin, si, j'ai fait une grande école, mais plutôt moyenne. Donc, ça n'a rien changé pour moi et j'aurais pu faire SES. Voilà. Ça, donc, c'est les seuls endroits où j'ai été un petit peu influencé. Et aussi, après le bac, je voulais faire donc, un voyage à travers le monde que je n'ai pas fait. Après mon bachelor, je voulais faire ce voyage à travers le monde que je n'ai pas fait. Parce qu'on me disait, mais tu vas jamais réussir à te remettre dans le modèle, etc. Peut-être à juste titre, mais du coup, le fait est qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas fait ce voyage.
Peut-être qu'il va arriver, oui. Tu sais pas. Mais en tout cas, on l'a vu, il a été moteur de plein de choses derrière, en tout cas.
Absolument.
Ok. Donc, tu fais ces études de commerce. Tu as des expériences à côté, que ce soit en stage ou en alternance ou autre. Est-ce qu'elles sont guidées par déjà une envie de créer boîte spécifique, ou est-ce que non, tu te dis voilà, j'ai l'opportunité d'aller dans telle ou telle entreprise, je la prends.
Elles ont été guidées parce que je voulais en aucun cas me retrouver dans un grand groupe. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais pas être enfermé dans un poste déjà tout fait. J'avais ce besoin de pouvoir exprimer une certaine créativité et d'avoir quelques libertés. Donc, première année, moi, j'ai fait le choix de partir à l'étranger parce que j'avais fait allemand LV1 pour pouvoir aller au bon collège à l'époque. Et donc, du coup, j'étais un peu mauvais en anglais, donc il fallait que j'aille me remettre à niveau. Donc là, c'était un stage, on va dire, un peu par défaut, mais qui était très formateur, parce que le fait de partir à l'autre bout du monde tout seul à ben 18 ans, c'était en Australie, du côté de Maroochydore, donc juste au-dessus de Brisbane, sur la Sunshine Coast. Mais du coup, on apprend d'autres choses. Bon, j'ai appris l'anglais, mais dans l'entreprise, j'avais des missions à dire un peu théorique où on me laissait pas faire grand chose, c'est 2 mois et demi, donc de toute façon t'as pas le temps de faire grand
chose. C'est rapide.
Mais au moins j'ai appris beaucoup sur moi, sur ma capacité à me retrouver tout seul, à aller vers les autres, à m'acculturer à une nouvelle culture. Donc ça c'était super enrichissant. Et puis après, en année 2, il fallait faire un stage alterné. Donc là, j'ai fait le choix effectivement d'aller dans une start-up qui s'appelait Original Cup, et je salue Martin et Paul s'ils écoutent ce podcast, pour les rejoindre et pour être business developer. Donc là, c'est vraiment faire du phoning là où les gens ne nous attendent pas. Et donc là, j'avais la capacité à amener des idées parce que je sais que grâce à moi, ils sont rentrés dans les réseaux VNB qui sont des KV20, donc, qui a priori ne sont pas l'endroit où on prédestine d'avoir ce genre de choses. Mais finalement, aujourd'hui, ils sont très bien implantés dans tous ces sujets-là. D'avoir amené les gobelets Original Cup à Fougères dans le petit Carrefour City, c'est toujours une fierté quand on y allait.
C'était
à Digital. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, là, je faisais beaucoup d'allers-retours entre Fougères et Rennes. Donc, j'ai fait le choix après d'aller faire autre chose complètement différent, du coup, dans un centre de formation de langue. Et du coup, un poste administratif. Donc là, c'est tout ce que j'ai détesté et tout ce en quoi je suis mauvais.
Ça t'a permis de t'en rendre compte.
Absolument. C'est juste ça que j'en garde. J'ai découvert des métiers qui n'étaient pas faits pour moi. Qui étaient, on doit suivre un process, on doit faire des choses d'une manière et on ne peut pas s'y déroger, quoi. Et puis après, là, j'ai fait aussi d'autres choses un peu plus loufoques. C'est que j'ai été dans des élevages de porcs faire... des essais en nutrition animale pour en gros remplacer les vaccins à l'aide de minéraux, ce genre de choses, un peu l'équivalent d'un complément alimentaire, mais pour les animaux. Et donc du coup, là aussi, j'ai découvert des choses que j'avais pas forcément envie de faire, mais qui du coup sont aussi m'ont poussé dans mes retranchements avec du coup la volonté de se dépasser, de pas craquer, qui sont du coup finalement toujours assez enrichissants. Et ensuite, l'entreprise qui m'a embauché à la fin de mon master, c'était du coup une petite on va dire PME, parce que ce n'était pas vraiment une start-up, et qui depuis s'est fait... Donc on était 7, je suis parti, on était 40. Donc là, j'avais beaucoup de liberté, beaucoup de crédit. Les gens m'ont donné de la confiance. Ils ont par la suite investi dans le Check and Visit. Eux sont fait racheter depuis, ils sont sortis, ils ont créé d'autres projets, donc c'est très vertueux. Et en parallèle de mes études, j'avais aussi un poste d'export manager dans une start-up de compléments alimentaires bretonne, où là, du coup, en parallèle de mes études, en parallèle de mes stages, j'allais à Londres pour développer des gammes, j'allais sur des salons. Donc là aussi, j'avais la liberté. Donc la liberté de pouvoir m'exprimer d'une quelconque manière, que ce soit commercial, marketing, d'essayer des choses, me planter, apprendre, ça a vraiment guidé tous mes choix de où est-ce que je voulais me retrouver dans le monde professionnel. Et j'estime qu'aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai le plus appris. Alors, j'aurais certainement appris d'autres choses si j'avais été dans un grand groupe, peut-être une rigueur de travail, ce genre de choses, etc. Mais c'est vrai que ça ne m'a vraiment pas du tout guidé dans tous les choix que j'ai faits à ce niveau-là, quoi.
Ok. Bon, bah, un profil actif, même très actif, parce que tu as cherché en tout cas à te créer l'expérience et à découvrir des choses. C'est là aussi intéressant quand on fait le parallèle avec les profils entrepreneurs, quelque part, c'est cette volonté de découvrir ou de défricher des choses. En tout cas, là, on le ressent dans tes expériences, parce que voilà, elles ne sont pas forcément liées entre elles, mais en tous les cas, ça t'a permis de découvrir sur toi-même et puis en même temps de construire un set de compétences. Derrière, tu te lances dans l'entrepreneuriat, pas tout seul.
Non.
Comment est venue donc, l'idée, même si j'en ai parlé un petit peu dans l'intro, et comment tu as fait pour trouver tes associés et partir ensemble dans l'entrepreneuriat?
Ouais. Bah, du coup, comme tu l'as dit, à ce moment-là, ça fait quelques années que je gère des appartements pour mes parents. Et donc, je deviens diplômé, je me dis, bon, je vais investir dans l'immobilier, c'est ce que martèle comme message l'entreprise dans laquelle je suis embauché. Et donc, du coup, je devais investir initialement dans un appartement, et puis j'ai l'opportunité d'acheter un immeuble. Et donc, du coup, je convainc mon père de venir sur le projet, on fait l'acquisition, et à ce moment-là, j'en ai un peu marre de mon travail, j'ai fait le tour, donc je me dis, dans 6 mois, je vais partir faire le voyage à travers le monde. Du coup, à cette époque, j'ai une dizaine d'appartements en gestion, donc pas forcément à moi, mais entre les proches et autres. Et donc, du coup, j'ai deux problèmes principaux. C'est comment je vais gérer mes états des lieux à distance lorsque j'ai un changement de locataire, et comment je vais gérer mes visites parce que, du coup, il faut quand même ouvrir les portes, etc. Et donc, je demande aux agences, est-ce qu'elles peuvent gérer juste cette partie-là, mais pas prendre toute la partie honoraire et du coup entamer la rentabilité. Elles me disent non, c'est soit tout, soit rien. Et après... Voilà, je découvre des petits acteurs sur la partie état des lieux, donc généralement des indépendants, très petites structures, des expériences clients catastrophiques dans lesquelles je ne me retrouve pas du tout en tant que vraiment digital user, ou bien des filiales de grands groupes immobiliers qui ne s'intéressent pas en fait aux particuliers et qui ont des avis clients catastrophiques. Du coup, partant de là, je décide de créer un service d'état des lieux bienveillant, transparent, éthique, parce que sur le côté visite, c'était le début de l'avènement de la visite virtuelle. Donc, je me dis que ça va être un petit peu le nouveau standard. Quoi.
Oui, et puis il y avait les fameuses caméras 360 qui permettaient de créer ces visites. Ça a été la mode à un moment donné.
Oui, ça l'est toujours et on le voit de plus en plus. Et on va y revenir après parce que finalement, l'état des lieux, c'est quelque chose qui est un métier complexe. Et du coup, l'image peut beaucoup aider. Et donc, du coup, on se lance sur ça, sur l'état des lieux d'abord. J'ai beaucoup écouté Coup d'État de The Family à cette époque. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup aidé dans le fait de mûrir cette idée d'entrepreneuriat parce que avant d'arriver à Check & Visit, j'avais regardé plein de choses, je m'étais fait plein de brainstorming à moi-même parce que je voulais vraiment créer quelque chose. Et finalement, par le plus grand des hasards, c'est un problème perso, comme bien souvent, ça arrive. Et du coup, ce que je voulais surtout pas, c'était être solo founder, parce que j'étais convaincu que je pouvais y arriver, mais que sur le long terme, ça serait difficile à porter. Du coup, j'ai essayé d'en parler le plus possible, plutôt que de conserver son idée comme on pourrait avoir tendance à le faire. Donc je me suis vraiment forcé à en parler autour de moi, etc. Et puis j'ai des potes qui m'ont dit... moi ça m'intéresse, si tu veux juste de faire les états des lieux à Lille parce que je reprends la fac, je sais pas quoi faire, ça pourrait m'arrondir les fins de mois, etc. Donc on part avec deux potes, donc un ami d'enfance qui est Mathieu qui est du coup aujourd'hui responsable des opérations, on se connaît depuis la crèche, depuis qu'on a 2 ans et on est amis dans la vraie vie, et un autre copain qui du coup pour des raisons diverses et variées finalement sort du projet très vite, et donc du coup on commence comme ça. Et au bout de 6 mois, on est sollicité par des professionnels de l'immobilier, alors qu'on était plutôt sur la partie particulier à la base. Et du coup, on se rend compte que en fait, pour les mêmes coûts d'acquisition, on a des volumes beaucoup plus importants. Et donc, assez naturellement, on va se rediriger après vers les professionnels.
Vers les pros.
Ouais.
Peut-être plus de moyens, plus de volume.
Oui. Et finalement, un particulier, il est en moyenne entre 1 et 2 biens. Donc, avant qu'il revienne sur le marché, c'est toujours un peu compliqué. Donc du coup, on est sollicité par ces professionnels et au bout de 6 mois, on fait plusieurs centaines d'états des lieux, Mathieu et moi, entre Rennes, Fougères, Saint-Brieuc et Paris. Et on commence un peu à se dire, il n'y a pas des applications mieux pour faire les états des lieux. Et même, on avait des points de divergence entre nous parce que même si on a essayé d'appliquer la même méthode, en fait, des fois, on n'est pas d'accord sur une trace, sur l'appréciation finalement de
l'état. C'est quoi le référentiel sur lequel vous êtes tous d'accord, alignés?
On avait une méthodologie de dire qu'on note tout comme ça on est ok, sauf que en fait à un moment on dit mais non, mais ça c'est normal. Et donc du coup, on commence à se dire, on pourrait faire les choses mieux, quoi. Et donc Mathieu, lui, il a fait une fac de sport, moi j'ai fait une école de commerce. Même si j'ai un petit peu appris à coder HTML, CSS, je vais pas beaucoup plus loin, quoi. Oui, donc on commence à imaginer. Donc dans le petit bureau que l'école de commerce nous avait prêté, on imagine la solution de demain. Et la solution de demain, c'est on rentre dans un logement, on scanne avec un téléphone, une caméra, on savait pas très bien à l'époque. Et l'idée, c'est qu'une IA, donc une intelligence artificielle, détecte les dégradations. On le fait à l'entrée et à la sortie, on superpose les deux modèles 3D pour détecter les différences et ensuite aller jusqu'au chiffrage pour faire les travaux de remise en état. On est bien incapable de savoir si déjà c'est réalisable et qui pourrait faire ça. Donc du coup, on vérifie d'abord en interviewant une 10-15 de personnes tech. Est-ce que c'est possible? Moi, j'ai été rencontrer des gens sur LinkedIn, tout ça, pour m'assurer.
Tu as fait la démarche de dire j'ai un projet, j'aimerais le faire chiffrer.
C'est bonjour, j'ai une idée de business, j'aimerais vérifier si techniquement, en fait, c'est possible. Et du coup, je vous ai identifié, vous, en tant qu'expert, ou on m'a recommandé de venir vous voir par un tel ou un tel. Mmh. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à valider ou pas la faisabilité, finalement, du projet, sans aller voir une agence, parce que c'était pas ça l'idée. Et donc du coup on me dit alors c'est super, c'est possible, mais il faut que la personne elle maîtrise l'IA, le 3D et la modélisation, la langage web, la technologie mobile, et idéalement qu'il soit docteur, donc un peu le mouton à cinq pattes, parce que quand on est docteur on a du CIR, ce genre de choses.
Donc c'est tous les crédits.
Crédit d'impôt recherche. Et donc du coup on se dit super, un peu ambitieux, on se dit à la fin de l'été, donc on était fin juillet, fin de l'été, mi-septembre, on a trouvé ce CTO. On ne sait pas trop comment en fait chercher.
Quand tu mets une annonce, tu cherches, t'en parles autour de toi.
On en a parlé autour de nous un petit peu dans des groupes, etc. Mais il n'y avait pas non plus toutes ces applis qui nous aident à trouver notre cofondateur, ce genre de choses. Mais il y en avait une qui était Shaper, donc créée par Ludovic Huero.
Qui est passé sur ce podcast.
Ouais. Et du coup, je change ma description en disant on va révolutionner le monde de l'immobilier, je cherche mon CTO. Et là, en fait, on match avec Sylvain, qui lui est docteur en modélisation 3D, en intelligence artificielle, et qu'on a un peu marre de la recherche parce que ça fait 10 ans qu'il en fait.
Le match idéal, quoi.
Le match. Et donc, il vient nous voir en nous disant, écoutez, ce que vous faites, c'est assez marrant, parce que du coup, on faisait quand même déjà pas mal de chiffre d'affaires à cette époque, mais en mode no-tech, quoi. On faisait juste des états des lieux et on commençait à nous challenger dans les incubateurs où on était. Vous récoltez de la data, demain, ça aura de la valeur. Et nous, on était là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, Sylvain, lui, arrive avec une vision très complémentaire du métier que celle qu'on avait. Et il dit, effectivement, demain, ça va avoir de la valeur. Et déjà, vous pourriez l'utiliser pour mieux faire votre métier, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on commence à envisager de se rapprocher. Et il nous rejoint 3 mois plus tard. On fait un pacte d'associés, il devient associé. C'était une volonté de sa part. Pour nous, il n'y avait aucun sujet. Et du coup, on commence à créer la première brique technologique de Check and Visit, puisqu'à la base, c'était, on va dire, un WordPress pour juste prendre des commandes. Et du coup, la première, c'est créer une application pour faire les états des lieux, pour du coup récolter les images, pour entraîner le réseau de neurones à reconnaître les dégradations, pour assister les personnes sur le terrain à faire l'état des lieux plus rapidement et de manière plus objective. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à construire la vision technologique de Check and Visit.
Et donc c'est pas que de la collecte, entre guillemets, d'informations d'état des lieux, il y a une couche complémentaire qui est là pour essayer de détecter.
Ouais.
Okay.
Le but, c'est vraiment d'objectiver. Alors du coup, c'est un process qui prend du temps et que nos clients et nos intervenants ne voient pas toujours, parce qu'en fait, on a l'impression que d'essayer de faire un état des lieux complet, c'est fastidieux, etc. Mais en fait, c'est aussi un prérequis pour pouvoir mieux orienter l'algorithme, à reconnaître demain que ça, c'est bien une tâche sur un mur blanc, qu'est ceci, qu'est cela. Et donc, du coup, là, on commence à y arriver, puisque depuis 6 mois, on a intégré ça dans l'appli sur la reconnaissance de dégradation et sur la partie modélisation. Donc aujourd'hui, on intègre toujours une numérisation 360 à nos états des lieux. Et là, on est en train de basculer sur la modélisation 3D avec la détection à partir d'un téléphone. Chose qui est assez remarquable comme produit, et ça dépasse même juste l'immobilier dans ce qu'on est capable de faire. Quoi.
Oui, il y a plein d'applications possibles derrière de cette techno. Ok.
Et donc, du coup, on a.
Ça devient une société ?
Oui, ça devient une société. Donc, on l'a créé beaucoup trop tôt. Donc, conseil à tous les auditeurs et les auditrices, ne créez pas la société au moment où vous avez l'idée, parce que ça peut vous fermer beaucoup de portes. Nous, on a créé la société en 2017, mais on s'est lancé en juin 2018. En fait, on a eu un an d'idéation, de maturer un peu le concept, etc. Et
c'était quoi comme statut juridique ?
Une SAS.
Si en plus c'était une SARL, vous auriez commencé à cotiser.
Ouais, et donc du coup, on a délégué cette partie-là avec une société qui s'appelait Made in Law à l'époque, mais un peu l'équivalent d'un Legal Start ou ce genre de choses, qui était bien utile. Et par contre, du coup, ça nous a fermé les portes à plein d'aides en fait en région Bretagne sur au bout de 6 mois de création,
oui,
un an de création.
Quand vous avez fait les demandes,
on avait plus d'un an et donc
déjà trop d'historique.
Voilà. Et donc du coup, ça servait plus à rien. Donc c'est vrai que c'est un conseil actionnable dès maintenant. Créer que quand vous avez commencé à avoir un peu de traction, que c'est obligatoire pour une aide ou ce genre de choses. Mais sinon, le faites pas trop tôt, parce que ça sert pas à grand chose, quoi. Et donc du coup, on devient une société, on se développe toujours sur la partie prestation de services, etc. Et on se dit qu'il faut aller à l'étape d'après. Donc en 2019, on fait une levée de fonds en Friends and Family, donc globalement aller voir nos premiers cercles de relations, donc mes anciens dirigeants de chez mon financier qui investissent, la famille, d'autres business angels qu'on a rencontrés. Et du coup, ça nous permet de faire levier avec des projets avec l'argent public, donc des subventions avec la ville de Rennes, sur numériser du patrimoine existant avant travaux, donc l'opéra de Rennes, ce genre de choses, qui nous permet de tester pas mal de choses sur la partie tech et d'exister aussi dans la sphère plutôt locale, à travers des appels à projets régionaux ou départementaux qui permettent d'être visibles. Quoi.
Et donc ces aides ou subventions que vous pouvez avoir, elles sont liées vraiment à la partie tech, techno, pour développer le produit.
Sans la partie tech, on n'aurait vraiment pas du tout été accompagné dans ces ordres de grandeur. Mais après, ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait souvent une partie tech, mais une partie expérimentation business. Et du coup, il fallait qu'on trouve des expérimentateurs qui voulaient bien prendre du temps pour faire évoluer la technologie. Donc, c'est des choses qu'on a fait avec des entreprises du territoire. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup de poids après pour itérer rapidement aussi et embarquer des gens. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette chance-là. Et puis après, on voulait lever donc une première vraie levée de fonds avec des investisseurs type VC, ce genre de choses. Et donc, on avait pour ambition de lever 600 000 euros. On a bouclé les trois quarts du tour avec DBA, etc. Et on voulait absolument un fonds pour être un peu plus fort. Et à ce moment-là, Covid arrive. Et donc, du coup, on panique, parce qu'en plus de perdre tout notre chiffre d'affaires, on perd les trois quarts de nos investisseurs, qui eux-mêmes sont impactés par tous les mouvements boursiers et autres de leurs investissements précédents. Et du coup, il nous reste moins d'un mois de cash. Et donc là, on doit prendre une décision. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue avec les fonds avec lesquels on est déjà engagé, avec qui on pense que ça va le faire, mais on ne sait pas trop.
Oui, tu n'as pas de certitude.
Voilà. Donc voilà, et puis je me souviens du coup avoir appelé donc les gens qui étaient autour de nous, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui essaye de baisser notre valo de 40%.
Il se dit, ils sont à court de cash, donc c'est le moment de négocier.
Absolument, et donc.
C'était vraiment cette situation-là, ou c'était un pur hasard, c'était une personne qui négociait ?
Non, c'était une personne qui. On en a reparlé, parce que du coup, aujourd'hui, il a regretté n'avoir jamais investi dans Check and Visit.
D'accord.
Mais, en fait, pour lui, il y avait un quiproquo de valo. Pour moi, on s'était mis d'accord. Pour lui, non. Alors, peut-être que la discussion aurait quand même eu lieu sans le Covid. Le fait est qu'elle a eu lieu le lendemain où moi, j'essayais de m'assurer de qui était encore dans le tour après l'annonce du Covid ou pas. Et donc, du coup, j'ai pris le choix de retirer cet investisseur du tour parce qu'en fait, c'est pas tant le sujet de la valo en tant que tel, parce que voilà, c'est des choses fictives, mais c'est la méthode et la manière. Et du coup, en fait, la confiance, elle est rompue. Et donc, du coup, je veux pas avoir un investisseur dans lequel on va pas avoir confiance pour la suite. Quoi.
C'est sage décision, mais d'un autre côté, c'est affirmé.
Il faut
réussir à le faire.
Pas facile. Surtout que vraiment, on perd tout notre chiffre d'affaires à 95%. Et du coup, là, à ce moment-là, en fait, on reçoit le CIR de l'année précédente, donc crédit d'impôt recherche, plus 90% d'une aide, donc d'un de ces programmes qui normalement sont conditionnés en différentes tranches en fonction d'atteinte d'objectifs et autres. Et c'est ce qui nous sauve et qui nous permet du coup de décider, ok, on va continuer les discussions avec les fonds d'investissement pour espérer aller au bout, quoi.
Parce que là, tu avais la trésorerie qui te permettait de continuer à payer les salaires.
Absolument.
Et vous êtes combien à ce moment-là?
À ce moment-là, on est une quinzaine. On est une quinzaine et...
Donc ça fait déjà du cash à sortir tous les
ouais,
mois.
Ouais, ouais, rien à voir que quand on est 75, mais effectivement, ça, l'argent se dépense quand même assez vite. Donc même avec du coup ces deux aides, on n'a pas un an devant nous, quoi. Enfin, oui. On est plutôt en quelques mois.
On a
gagné
quelques mois.
On a six mois, quoi. Ouais. On a six mois devant nous et pas plus, quoi. Et en plus de ça, pour la petite anecdote, c'est que le fonds donc, principal est un fonds en création. Donc, ils ne peuvent pas nous faire de LOI au moment où ils décident d'investir chez nous. Donc, jusqu'au bout, ça aurait été le suspense, en fait, ouais. Pour closer ce tour, quoi. Et donc, du coup, on close finalement en juillet 2020, donc 800 000 en equity et 800 000 avec BPI et un pool bancaire pour continuer le développement, quoi.
Écoute, beau. Alors, t'es déjà entré dans la deuxième partie. Qui est comment tu as fait pour t'attaquer à un marché français, hein, composé d'acteurs historiques. Toi, tu cherches à le numériser, digitaliser en partie. Et puis, pour dépasser les 100 000 missions en 5 ans. Alors là, on voit que c'était galère à ce moment-là, qu'il y a eu des rebondissements. Comment, après, tu fais, toi, tes associés et ton équipe, pour faire en sorte d'aller chercher ce développement, cette croissance? On a vu des articles qui montrent plus de 160% de croissance, etc. Donc, un beau développement. Et puis, ça, vers la rentabilité aussi, puisqu'on parle de levée de fonds, mais l'objectif aussi, c'est d'être profitable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment de cette idée initiale et avec ce produit que vous avez financé au départ, comment ça devient une boîte de 75 personnes qui se développe et qui, on verra après dans la troisième partie, a encore de belles ambitions devant elle.
En fait, on a eu la chance, avant de devenir une boîte tech, d'être une boîte qui faisait du chiffre d'affaires. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que du coup, on a toujours été sales-driven. C'est-à-dire que c'est le commerce qui drive la boîte. Et donc, du coup, au démarrage, c'est Mathieu et moi qui prenons notre téléphone pour appeler tout azimut toutes les agences de Rennes et à se prendre des noms parce qu'en fait, à l'époque, l'externalisation de services comme l'état des lieux, les visites ou d'autres cas de figure, c'est pas encore monnaie courante. Le Covid a accéléré quand même beaucoup de choses et beaucoup de prises de conscience dans la nécessité d'avoir un modèle d'affaires beaucoup plus résilient auprès de ces acteurs-là. Mais à ce moment-là, en 2017-2018, l'état des lieux, ça fait partie du business de l'administrateur de biens. Et pourquoi tu viens en fait me piquer mon travail, quoi?
Oui, c'est un peu perçu comme ça, en fait.
Ouais, ouais.
Comme
à cette
concurrent
époque-là,
et pas comme un
partenaire.
Un aidant sur cette dimension.
Donc y a effectivement cette chose-là. Et puis, y a aussi, on a déjà essayé et finalement, ce n'était pas qualitatif. Donc voilà. Donc, on construit un argumentaire de vente. Et moi, dans ma précédente boîte, j'avais fait pas mal de growth hacking. Donc, tester pas mal de choses en marketing automation, tester du scrapping pour aller vite. Et donc, du coup, on le fait sur des notaires, on le fait sur des administrateurs de biens, etc. Et c'est comme ça qu'on commence finalement avec une stratégie du bas vers le haut, parce que de toute façon, à l'époque, on est deux pecnos de Bretagne qui nous attaquons aux états des lieux, alors que ça fait quand même plus de 10 ans, 20 ans que certains acteurs qui sont bien souvent filiales de grands groupes immobiliers et qui nous regardent. Mais
donc, c'est de là.
Absolument. Donc je me souviens, 2018, notre premier Rent. Donc Rent, c'est le salon des nouvelles technologies. Donc, on y va en tant que visiteur et on rencontre nos concurrents et autres. Et on se dit qu'on va travailler un peu pour eux, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Et c'est comme ça que les premiers contacts avec ces acteurs-là, mais c'est vrai qu'ils nous prenaient vraiment tous de haut. Même des gens qui sont aujourd'hui nos clients, ne connaissaient pas grand-chose, notamment à la législation, à tout ça. Donc, en fait, on s'est beaucoup formé aussi en écrivant des articles. Une des stratégies au tout début, c'était de capitaliser sur le référencement naturel pour que ça nous apporte finalement du flux gratuit.
C'est toi qui avais cette compétence-là. Ouais,
c'est ce qu'on faisait dans l'entreprise précédente, c'est qu'ils avaient zéro budget pub. Et du coup, ils avaient une newsletter avec 300 000 inscrits et tous les jours, ils commentaient l'actualité. Ouais, ils commentaient l'actualité matin et soir et le week-end. Et en fait, c'est à travers les articles et les actus qui généraient des appels à action pour faire des demandes d'informations sur tel produit ou tel produit. Donc du coup, mon enjeu, c'était de faire venir plus de gens sur le site et de convertir plus de visiteurs en inscrits à la newsletter. Et donc du coup, je mets au point une petite formation et je forme Mathieu, puis je forme un stagiaire, et puis avec un peu d'argent, on a aussi des rédacteurs aux quatre coins de la France qui le font pour nous, pour vraiment commencer à mailler on va dire des thématiques assez simples sur lesquelles on peut se positionner rapidement. Donc on fait ça, et puis après, on est sollicité par quelques agences, quelques acteurs plutôt locaux, et puis assez vite à Paris finalement. Donc on ouvre à Paris avec un ami qu'on connaît également de Fougères qui est associé maintenant de l'entreprise minoritaire qui fait des états des lieux pour nous pendant 2 ans. Donc voilà. Mais effectivement, au démarrage, très compliqué, surtout que l'immobilier, c'est un monde assez fermé. Il faut vraiment avoir fait ses preuves pour être considéré. Et ça nous a mis 3 ans et demi avant de pouvoir être considéré par les gros qui ont un rayonnement national, etc. Quoi.
Parce que si tu te mets dans leur perspective, c'est 2 jeunes qui arrivent, qui veulent révolutionner un peu une partie du métier avec du digital, une tech. Bon, voilà, c'est vrai que certains peuvent se poser des questions. Tu as parlé de référencement, ça a permis d'être visible, crédible. Comment tu fais, et on en vient à la question que je pose à tout le monde, par rapport au nom, comment il était créé, Check and Visit. Ah oui. Comment tu fais à ce moment-là? Parce que le nom, pour le coup, c'est des mots-clés pas génériques, mais en tout cas répandus. Comment tu fais pour sortir du lot sur ces mots-clés-là? Est-ce que finalement, ça n'a pas de sens parce que, ça n'a pas de lien parce que vous êtes sur un marché français, donc les gens tapent pas Check and Visit, ça marcherait pour de l'anglais. Comment t'as géré ça? C'était quoi la stratégie?
Le nom, il est venu comme ça. En fait, je rénovais un appartement chez moi et ça faisait 2 jours, 3 jours que j'avais fait du brainstorming avec des copains et mes anciens patrons autour d'une bière dans un bar. Et on avait essayé de trouver des trucs avec la clé, des choses pas terribles.
Ouais.
Et puis là, je suis en train de laver mon frigo à 4 pattes, un peu moisi. Et là, je fais Check and Visit. Et en fait, je voulais un truc international. Du coup, déclic, et c'est resté. Parce qu'en plus, ça prend tout son sens. Et je vérifie, et en même temps, je viens.
Ouais, sur un place, nom donc... promesse où tu comprends tout de suite.
Donc, il y a certains franco-français qui ont check et visite. Donc, on s'aperçoit un peu son sens, mais globalement, ça marche assez bien. Et donc, on ne va bien évidemment pas se positionner prioritairement sur ce nom-là parce que personne ne le connaît. Mais on va plutôt aller sur des mots-clés de longue traîne, sur société d'état des lieux à Rennes, réparation locative, propriétaire, locataire, des choses qui sont finalement autour de l'action d'achat, mais qui ne sont pas forcément véritablement... Elles sont souhaite,
très fines et précises.
Ouais, avec peu de concurrence, donc nous on regardait, fallait qu'il y ait un nombre minimal de pages indexées dans Google, au-delà de 500 000. C'était pas intéressant, on allait mettre trop de temps à ranker parce qu'on avait une autorité de domaine trop faible. Et du coup, après, pour augmenter notre autorité, on a été faire des partenariats, donc ce qu'on appelle du backlink, donc d'échange de liens. Et puis après, de la presse qui marche très bien. Et donc, du coup, là, c'est de la presse locale, de la presse à travers des salons en tant que start-upper, ce genre de choses. Et on a eu plutôt de la chance parce qu'on a été bien couvert à chaque événement. Et du coup, ça nous a permis de faire remonter l'autorité du nom de domaine à ce niveau-là. Et donc la stratégie a commencé comme ça. Et après, on l'a étendue sur de l'étude de cas, sur des lignes magnétiques pour générer des leads. Donc là, aujourd'hui, on a une machine qui est beaucoup plus robuste avec du nurturing. Voilà.
C'est un vrai point ce que tu dis, parce que quand on se lance, effectivement, il n'y a pas la notoriété. Donc le nom de marque, il n'est pas encore connu. Ou en tout cas, il n'y a pas de... image ou d'association à ce nom. Donc le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel, est une des solutions, comme la presse ou autre, pour créer ces traces, entre guillemets, en ligne, ces éléments de crédibilité qui font que tu vas aussi être pris au sérieux quand tu te lances, parce que y a pas l'historique. En plus, si tu es jeune, voilà, ça a forcément un impact. Il y a de la cohérence dans cette stratégie que vous avez mis en place. Après, avec tous les autres mots, alors peut-être barbares pour certains qui nous écoutent, de nurturing, etc., de ligne magnète, mais qui sont aujourd'hui des techniques à utiliser. Vous, du coup, c'est votre développement principal. Tu disais tout à l'heure qu'au début, c'est toi qui prenais ton téléphone et qui démarchais. Est-ce qu'aujourd'hui, votre canal principal d'acquisition, de prospects ou de clients, c'est le digital? Ou non, il y a encore d'autres actions qui permettent de vous développer?
Le monde de l'immobilier est un monde de réseau, de relationnel, même si la crise du Covid a apporté de nouveaux automatismes, notamment du visio, du distanciel. Ce qu'on constate, c'est que les gens aiment bien se déplacer en salon, les gens aiment bien être invités. C'est encore beaucoup d'humains. On fait encore des salons qui nous apportent énormément de visibilité et de contacts. Mais sinon, effectivement, dans le cadre de la stratégie, c'est capitaliser sur le référencement avec des contenus à forte valeur ajoutée qui convertissent du coup des prospects, enfin des visiteurs en prospects, voire en demandeurs, donc MQL, donc Marketing Qualified Lead, donc qui demande carrément une démo, je veux voir votre produit. Donc du coup, là, c'est directement auprès d'un commercial que ça se passe. Et après, on a deux axes principaux, c'est du cold calling directement, mais du cold calling qui est ciblé, c'est-à-dire que on a une base d'entreprise dans le CRM qui est enrichie avec un certain nombre d'informations, et du coup derrière ça nous donne un scoring de lead, et du coup ça priorise en fait, ça distribue en fonction de si c'est pour un key account manager ou si c'est juste pour un commercial, ou si à l'inverse c'est pour un commercial junior.
Tout ça, vous l'avez automatisé ou en tout cas?
Alors, il y a des choses, la plupart des choses sont automatisées. En revanche, il y a des choses qu'on ne peut pas complètement automatiser. Mais oui, l'idée, c'est d'avoir un processus qui est le plus fluide possible. On a aussi beaucoup travaillé en séquence, donc en séquence d'emailing. Donc là, on a beaucoup, beaucoup testé l'ultra-personnalisation de l'emailing de masse. Enfin, on s'est fait insulter des fois. Enfin, voilà, mais c'est faut juste dire qu'après, il y a un humain, en fait, et que c'est... Voilà, je suis désolé de vous avoir dérangé. Veuillez m'excuser, ça ne se reproduira pas. Et juste s'y tenir à cette parole, et ce n'est pas grave. Moi, le premier, je suis cette personne qui répond quand on me spam et qu'on n'arrête pas. Mais du coup, je sais l'entendre de l'autre côté. Donc, on a fait ça. Et puis là, aujourd'hui, effectivement, vu qu'on a une notoriété, on a une équipe marketing qui est dédiée avec de la publicité payante, donc SIA, donc sur LinkedIn, Google et autres, on génère des leads. Et du coup, après, ces leads, on leur propose du contenu en fonction de leur phase de maturité dans laquelle ils se trouvent pour pouvoir déclencher une opportunité côté commercial à ce niveau-là, quoi.
Et comment tu détermines justement la phase de maturité? C'est qu'il y a un formulaire à remplir, tu leur poses quelques questions qui permet de cibler le profil?
Ouais, il y a en fait un score, donc un lead scoring qui dépend du nombre de fois où on va visiter une page, nombre de fois où on va... déclencher le téléchargement d'un article, de quel type d'article, si on remplit un formulaire pour avoir une démo, enfin voilà, ce genre de choses, et ce qui nous donne un scoring, en fonction du nombre de points, alors il passe à l'étape de MQL, donc qui doit être traité derrière par les commerciaux.
Et donc vous avez mis en place une vraie stratégie et qui vous permet d'aller justement fournir après vos équipes commerciales pour générer des démos ou des ventes, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Le process, on passe toujours par une démo, toujours par un test. On a essayé par le passé de raccourcir ce cycle de vente, sauf qu'en fait, les gens après ne sont pas activés et pas engagés. Donc du coup, on préfère effectivement toujours passer par un test, un débrief de test, ce qui peut être un peu frustrant pour les équipes commerciales. Mais en fait, si nous, on n'est pas sur un engagement de chiffre d'affaires, c'est du booking. En plus, quand il y a des crises comme ça dans l'immobilier, en fait, ce booking, il se transforme ou pas en chiffre d'affaires. Donc, pour nous, pour avoir la prédictabilité et le pilotage fin de l'entreprise, il était nécessaire de réduire cette incertitude au maximum, quoi.
Ok. Alors, on a parlé justement un peu du côté international avec le nom. Aujourd'hui, vous êtes que en France, vous êtes aussi international?
Ouais. Aujourd'hui, on est que en France sur la partie prestation de services, etc. Et puis. En novembre, on a lancé donc une technologie qui s'appelle InSpacer, qui permet à partir d'un téléphone de scanner un espace et d'en obtenir une vidéo stabilisée drone en très haute qualité et un modèle 3D qui recompose même les endroits où on n'a pas été scanné, ce qui est assez dingue, donc grâce à l'intelligence artificielle. Et tout ça à partir d'un téléphone donc Android ou iOS. Et donc ça, on a déjà énormément de demandes à l'international parce que c'est des technologies qui, depuis 12 mois, n'arrêtent pas d'évoluer très vite. Et donc là, nous, on développe des cas d'usage, mais qui vont du coup être très vite déployés à l'international. Donc sur cette partie-là, ça va arriver très vite.
Les brevetés
déjà deux fois. Et sur la partie plus servicielle, qui est du coup notre cœur de métier historique, là, jusqu'à présent, on était en France, on avait fait la projection d'être en fin 2024, début 2025 à l'étranger, compte tenu de la crise immobilière et du retard un petit peu qu'on a pris. Je pense que ça va être décalé plutôt 2026, sauf opportunité derrière. Mais voilà, on préfère valider le rationnel de la rentabilité du modèle, etc. Parce qu'au-delà de la crise immobilière, il y a également la crise des financements et un assèchement. Et on n'arrête pas de voir des entreprises, notamment des startups, en redressement judiciaire ou en cessation d'activité carrément. Donc c'est quelque chose, finalement, que je trouve sain, parce que la course à la croissance version VC, alors que si on regarde de manière très, très factuelle les business économiques, enfin les KPI, du coup on se rend compte que le business model il n'est pas viable. Donc voilà, on essaye d'avoir un œil là-dessus et d'être rentable dès 2024.
D'accord, donc là l'objectif c'est aujourd'hui rentabilité pas atteinte, mais c'est 2024 de pouvoir le faire.
Ouais.
Pour valider le modèle et après vous dire est-ce que ce modèle il est exportable quelque part, parce que là on parle du marché français avec ses spécificités aussi, ouais. Mais peut-être qu'au UK, en Allemagne ou autre, les usages sont différents sur tout ce qui est état des lieux ou immobilier.
Ouais,
vous avez déjà regardé ça?
Ouais. Au moment de la levée de fonds, on a fait une grande étude internationale sur les 10 plus gros pays importants en Europe et les 5 États les plus prometteurs aux États-Unis. Pardon. Et effectivement, il y a des spécificités qui sont très différentes d'un pays à un autre, voire des fois, il n'y a même pas d'état des lieux. Ce qu'on a regardé, c'est que le UK est très en avance, 10 ans en avance, parce que même pour une prise, une bouilloire électrique, il faut un certificat, ce genre de choses. Et à l'inverse, il y a d'autres pays comme l'Espagne où en fait les gens ils sont tellement radins, entre guillemets, enfin pingres, que du coup ils veulent pas externaliser ce genre de choses. Donc du coup là, c'est plus la technologie qui peut-être à terme va aider. Où là, ce sera du do it yourself plutôt que de la prestation, quoi. Donc on regarde activement toutes les opportunités aussi de croissance externe ou de partenariats qui peuvent. Mais voilà, on veut pas s'éparpiller, sachant que le marché français est un marché très gros déjà sur l'immobilier et qu'aujourd'hui on a aussi des opportunités de diversification autour de l'immobilier, voire même complètement ailleurs avec la nouvelle technologie. Et du coup, pour ça, voilà, faut rester focus. C'est très tentant d'aller à l'international, mais c'est aussi très coûteux. Donc voilà.
Oui, il faut de l'investissement.
Ouais, et pour l'instant, vu qu'il n'y en a pas, on essaye plutôt de dire, OK, avec cette équipe et avec cette technologie, avec notre savoir-faire, on sait adresser tel marché, voilà la profondeur, voilà ce qu'on pourrait faire en plus avec telle ressource, tout en montrant qu'on a démontré la rentabilité du modèle. Plutôt que de se lancer dans une course effrénée à la croissance non maîtrisée et on l'a un peu connu cette année et donc on en fait les apprentissages le plus rapidement possible, quoi.
Ok, alors justement tu fais une transition vers cette question, c'est-à-dire que là avec ton expérience, c'est quoi les galères que tu as pu rencontrer ou celles qui t'a le plus marqué, comment t'en es sorti ou tu l'as contré entre guillemets? Parce qu'on le sait, hein, le quotidien d'entrepreneur, c'est à la fois des hauts, mais aussi des bas, et tous les jours. Voilà, c'est quoi celle qui te viendrait à l'esprit et que tu pourrais nous partager?
Il y en a plusieurs, parce qu'on a eu, nous, plein de crises dans Check and Visit, le Covid, l'immobilier, celle du VC. Donc, ça oblige à être résilient et être précautionneux. On n'a jamais été des têtes brûlées chez Check and Visit, et un euro est un euro. Et on a mis longtemps avant de se dire qu'on préférait pas faire nous-mêmes et dépenser cet euro de manière plus intelligente. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage de garder quand même une gestion un peu bon père de famille. Et même après des levées de fonds importantes, même si les VC nous poussent à dépenser cet argent, à faire le plan, etc.
Dire, parfois, tu as quand même les fonds ou les VC qui te disent, mais vas-y, en fait, ouais. Dépense plus, ou en tout cas, mets un peu plus d'essence dans le moteur pour voir si ça avance ou pas.
Et on l'a connu cette année, et c'est ce qu'on a fait, et c'est l'une de nos plus grosses erreurs, c'est qu'on on a délégué, mais on s'est trop désengagé en fait de ce qu'on avait délégué. Et déléguer, c'est pas se désengager de quelque chose, parce qu'on doit quand même venir challenger les gens à qui on a délégué, et les gens à qui on a délégué doivent quand même nous reporter, et on doit être là pour qu'ils nous rendent des comptes. Et donc du coup, on a, pendant cette période où il fallait mettre en place beaucoup de choses d'un point de vue de la structuration, enfin on avait pour ambition d'être 120 à la fin de l'année, donc de doubler carrément le nombre d'effectifs. Et donc du coup, en voulant aller trop vite, du coup on a donné un peu les clés du camion d'un service, et on n'a pas regardé comment ça évoluait à certains niveaux. Et du coup, on s'est retrouvé à un moment où c'était en fait la crise de l'immobilier nous touchait déjà, et on s'en était pas complètement rendu compte. Et donc du coup, on pouvait plus du tout garder cette structure de coûts, et donc il a fallu faire des choix en arrêtant les frais, et du coup en réduisant la voilure, notamment du coup côté commercial, quoi.
Quand tu dis délégué, c'était délégué en interne ou à un prestataire
externe ? Non, là, c'était en interne. Bon, il y avait aussi un peu d'externe, mais sur la partie notamment recrutement, c'est-à-dire que moi, jusqu'en décembre 2022, je voyais toutes les personnes qui rentraient chez Check & Visit. Et à partir de janvier 2023, là où on avait des head-off quasiment à tous les postes, parce que c'est ce qui était attendu de nous, mais peut-être qu'en fait, nous, on n'était pas suffisamment mûrs pour tout ça. Et du coup, on a fait ça et on a fait pas mal d'erreurs. En tout cas, c'est pas des erreurs de personnes, mais en fait, les personnes, elles étaient pas faites pour être dans notre entreprise, quoi. Et du coup, c'est un fit mutuel, c'est-à-dire que les personnes, elles étaient pour elles pas au bon endroit, et l'entreprise, c'était pas le bon endroit pour elles. Donc,
de toute façon, c'est toujours une histoire de rencontre, hein.
Absolument.
Il y a des profils qui, à un moment donné, doivent être dans une entreprise, et une entreprise
oui, avec
qui
des
doit
modèles,
avoir
avec des modèles d'affaires qui leur correspondent, etc. Et nous, c'est vrai que...
Et c'est pas le cas 5 ans après. Voilà.
Et vu que nous, on avait toujours cette histoire de booking où, en gros, les gens nous signent, mais il n'y a pas d'engagement sur le fait qu'ils vont faire vraiment ce chiffre d'affaires avec nous, on s'est retrouvé en fait à 4 mois avec avoir donné des primes à des gens qui, en fait, nous avaient vendu du vent ou survendu des choses. Et du coup, c'était devenu problématique, quoi. Donc c'est là où on a clairement fermé le robinet, on a commencé à dire... Faut vraiment prendre conscience de tout ça. En plus, on pense que c'est pas fini encore la crise. Et donc, du coup, on est dans cette situation de se dire, on a aujourd'hui des clients qui sont eux-mêmes impactés par la crise. Donc, c'est comment on les accompagne, comment on leur propose aussi plus de services pour pouvoir augmenter notre valeur. Donc, ce qu'on appelle en anglais l'ARPA, donc le revenu moyen par client, pour être sûr qu'on atteigne la rentabilité en fin d'année prochaine.
Oui. C'est intéressant ce sujet, parce que tu te dis souvent, moi, j'ai levé des fonds, donc je peux y aller et puis ouvrir un peu les vannes à gauche à droite. En fait, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire qu'il faut le faire, mais toujours en structurant, en suivant la stratégie, en monitorant, c'est-à-dire en analysant. Et ce retour d'expérience est important, tu vois, pour toutes celles et tous ceux qui écoutent et qui disent, je veux avoir une stratégie offensive, quelque part, donc d'aller me développer. Et auquel cas, comment je le fais. Donc c'est
je pense que ça dépend aussi de ce qu'on veut que l'entreprise devienne. Si l'objectif, c'est de faire une croissance vraiment énorme, très rapidement, pour se faire acheter par un leader du marché, comme par exemple Cajou.
Dans ce cas, c'est un sprint.
Cajou sur la livraison
en 10 minutes,
en 10 minutes, etc. Eux, ils ont remarquablement réussi leur sprint. Mais c'est vrai que souvent, en fait... C'est plutôt un marathon, en fait, l'entrepreneuriat, et quand on veut s'établir en tant que leader, etc. Donc, nous, on a fait de la croissance à 3 chiffres tous les ans depuis le début. Cette année, on va être toujours à 3 chiffres, mais plutôt aux alentours de 100% que 300% comme les années précédentes. Mais du coup, ça entraîne quand même des besoins de changement, des besoins de structuration qui sont toujours intenses, etc. Et pour pouvoir perdurer dans le temps avec un modèle d'affaires qui, en cas de crise, notamment des financements ou de coups durs ou autre, il ne faut pas qu'on soit non plus trop éloigné, parce que sinon, en fait, ça peut finir en redressement judiciaire ou une sortie de route complètement, quoi.
Oui, et puis faire du chiffre pour faire du chiffre, si derrière, il n'y a pas de
marge, rentabilité
ou de profitabilité, simplement, ça n'a pas de sens. En tout cas, ce n'est pas durable.
Ouais.
Tu as quel âge ?
J'ai du coup 30 ans. Ça me fait bizarre de dire ça, j'allais dire 29, mais 30 ans.
C'est quoi le quotidien d'un entrepreneur de 30 ans ? Faire une boîte de 75 personnes qui a levé 12,5 millions en série A. Tu fais quoi aujourd'hui, si on compare avec la création il y a quelques années, avec tes associés? C'est quoi ton rôle?
Ouais, aujourd'hui, mon rôle, il est spécifié sur la partie de développement des grands comptes, donc tout ce qui est appel d'offres, toutes les nouvelles opportunités, donc d'aller initier des nouvelles opportunités de business. Donc, je vais aller faire les premiers tests, les premiers POC, et du coup, en même temps, façonner un petit peu le produit parce que on fait pas un état des lieux comme on fait une inspection d'assurance ou une inspection de voiture ou une inspection de bateau. Enfin, voilà, il y a quand même des spécificités, même si la technologie peut aider. Donc, l'idée, c'est d'identifier ces marchés, cette stratégie autour de ça pour savoir comment on y va et initier vraiment ces premiers tests commerciaux, convaincre, développer les partenariats, donc des partenariats avec des acteurs, soit pour la visibilité, soit vraiment pour du parti business. Je l'ai dit sur la partie produit, donc d'avoir la vision où est-ce qu'on va d'un point de vue produit. Qui est directement lié avec ce que les clients nous disent finalement et sur les marchés sur lesquels on veut attaquer, aligner l'ensemble des équipes sur un plan stratégique de on a aujourd'hui un copil, on est associé et on a aussi des investisseurs qui nous demandent des comptes, idem pour les financeurs, donc comment on arrive avec la stratégie à embarquer tout le monde. Donc là du coup c'est un travail, tout ce qui est autour des valeurs, autour de comment on incarne ces valeurs au quotidien, etc. Donc on a fait un gros travail l'année dernière, parce que quand on est 25, c'est pas pareil que quand on est 75. Oui. Et les gens qui sont venus là au début, ils se retrouvent pas forcément là où ils sont 75. Donc forcément, il y a des crises de croissance, mais c'est normal et c'est sain qu'il y ait du mouvement à ce niveau-là. Je suis également toute la partie M&A. Donc la partie M&A, je la suis pas au quotidien, mais en tout cas sur la partie... quelles sont les cibles qu'on va attaquer et quel est le modèle un petit peu derrière. D'un point de vue stratégie, encore une fois, c'est ça mon quotidien. Et après, la supervision des head-off, donc head-off sur la partie marketing, sur la partie service client, opération, sales. Et puis après, j'ai mis en place de nouveaux process pour améliorer les résultats au niveau de l'opération, la qualité. Donc je suis à donner des idées à plein de gens, mais bien souvent trop d'idées, donc c'est là où les gens doivent me stopper et me dire non, c'est pas maintenant, ou c'est pas le moment où on doit être focus. Et puis là, on vient de mettre en place quelque chose dont j'ai hâte aussi moi-même de le faire, c'est de chaque trimestre de passer 1h30 au service client. Et ça, c'est tous les salariés qui doivent faire ça.
Répondre au téléphone ou aux emails.
Ouais, pour développer l'empathie, ouais. Et se mettre à la place de l'autre, véritablement, de ok, là, le bouton. Je clique, je dois appuyer 3 fois, mais pour un dev, peut-être c'est pas très grave. Mais pour quelqu'un qui
dans fait, l'expérience, voilà, ouais. C'est...
Donc ça, on s'est librement inspiré de Alan pour ça. Et voilà.
Ok, bon, bah écoute, super. Tu as déjà parlé de la troisième partie avec le M&A, et il va être temps d'y aller parce que je vois l'heure qui tourne et c'est passionnant. Quelle est l'ambition pour l'entreprise Check and Visit? Ou dans 5 ans, dans 10 ans. Et du coup, comment tu comptes y arriver? Alors, tu nous as parlé de M&A, donc on vous a vu aussi déjà faire de la croissance externe ou racheter certaines boîtes ou services. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vois la suite?
Absolument. On se voit être le leader de la collecte de données immobilières pour prendre des décisions plus facilement, et notamment ce qui est lié à la transition énergétique. Et du coup, pour ça, on a bien sûr un développement qui se fait par le produit sur les innovations technologiques qui vont nous permettre de mettre des verrous à l'entrée sur notamment tout ce qui est captation d'intérieur en 3D, modélisation ou détection. Donc, qui va s'accompagner d'une croissance organique. Donc là, on était historiquement beaucoup sur les agences immobilières, petite et moyenne taille. Depuis quelques années, on est sur des comptes aussi beaucoup plus importants parce que c'est l'évolution aussi de la taille de la société. Comme on le disait tout à l'heure, quand on est petit, on n'intéresse pas les gros. Et oui. Quand on commence à devenir un peu plus gros, on peut commencer à être intéressant pour eux. Et du coup, il y a 40% de la croissance de l'entreprise qui va être basée sur les opportunités de M&A. L'objectif avec le M&A, c'est d'occuper une place plus grosse, plus rapidement de proposer une place dans la chaîne de valeur de tous les services qu'on occupe, beaucoup plus large que celle qui était initialement juste de faire des états des lieux. Et donc de pouvoir être présent quand il y a une vente, être présent quand il y a une relocation, quand il y a un problème.
Dans la globalité.
On a généralement des clients qui font de la gestion, de l'administration de biens, mais aussi du syndic de copropriété et de la transaction. Et souvent, il y a des enjeux qui peuvent être traités pas de la même manière, mais avec la même techno. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner véritablement tous les clients avec la technologie. Et dans 5 ans, l'Angleterre, à minima, et d'autres pays comme la Belgique ou autres qu'on regarde de très près, on espère qu'ils seront ouverts parce qu'il y a des opportunités qui sont énormes et on les prépare déjà.
Et l'objectif, c'est quoi ? C'est d'arriver à fusionner les parties techno et faire des économies d'échelle, de passer sous votre bannière, ou c'est de laisser justement vivre ces activités ?
Non, c'est vraiment de créer un écosystème. Nous, on se veut vraiment comme écosystème et c'est comme ça qu'on construit notre plateforme. C'est-à-dire que on utilise des moments importants de la vie d'un actif immobilier. Donc, ça peut être l'état des lieux, ça peut être une AG dans un syndic, ça peut être un sinistre dans le cadre d'une assurance ou ce genre de choses, pour créer un référentiel numérique en 3D et sur lequel, derrière, ça va être la composante centrale de la gestion immobilière de demain, sur lequel on veut que n'importe quelle entreprise puisse demain développer des applications auxquelles elle va penser. Donc, vraiment avoir une marketplace ouverte. Parce qu'on est convaincu que ça va participer à la fluidification en fait, du marché de l'immobilier qui est actuellement grippé et qu'on a bien besoin, et aussi permettre, quand on change de boulot, de trouver un emploi, un accès à l'immobilier beaucoup plus simplement et se dire « Ok, je suis au bon endroit parce que j'ai toutes les infos », de resserrer finalement la confiance entre tous les acteurs, là où quand on se dit qu'on va passer par une agence, on a des fois un peu peur de se faire avoir. Ou même par un propriétaire, aujourd'hui on a un peu peur aussi de se faire avoir, donc vraiment d'assurer de la transparence à travers cette collecte de données pour aider aussi à prendre des décisions plus simples.
Super, et donc d'autres levées de fonds prévues ou comment tu vois les choses justement sur la partie M&A, sur l'intégration ou la gestion de ces entreprises qui viendraient compléter l'écosystème?
On a la chance, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir déjà eu 3 opportunités. Donc, on a un peu d'expérience avec des choses à ne pas reproduire et à l'inverse, d'autres à reproduire. On n'a pas prévu de faire des levées de fonds spécifiquement pour ça. Pour l'instant, elles ont été intégrées dans le plan. Donc, c'est à nous de le délivrer. Et en général, elles s'inscrivent dans, en tout cas, ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans la marque Check and Visit. Mais il se peut que demain... pour des raisons stratégiques, on conserve des entités séparées pendant un nombre d'années ou ce genre de choses. Peut-être pour des raisons de maturité, pour des raisons qui entreraient en collision avec des partenariats ou ce genre de choses. Le but, c'est que quand on va faire ces acquisitions, on puisse faire bénéficier à nos clients de ce qu'on est en train d'acquérir, si c'est plutôt sur la partie produit. Et qu'on puisse proposer à leurs clients finalement des services auxquels ils n'ont pas accès aujourd'hui.
Alors, tu as parlé, vous avez déjà 3 expériences de M&A. Ce serait quoi les apprentissages que tu aurais à partager à nos auditrices et auditeurs sur les bonnes pratiques ou les choses peut-être à éviter?
Ouais. La première, c'est qu'on a commencé par une acquisition très petite. C'était très opportuniste. Quelqu'un est venu nous voir. Et en fait, le travail est le même que l'acquisition, elle fasse 50 000 euros, 600 000 euros ou 1 million d'euros quasiment, en tout cas dans ces ordres de grandeur. Donc c'est plutôt de viser des transactions assez moyennes plutôt que petites, parce que c'est
un temps incompressible, d'analyse, etc. D'intégration.
Voilà. Nous, on a eu aussi beaucoup de clients à onboarder qui ne nous ont pas choisis. Donc on avait pris les hypothèses de churn, hein, bien évidemment, mais c'est un temps qu'il faut absolument pas sous-estimer parce que c'est un vrai travail que d'embarquer des gens à changer de solutions qu'ils utilisent quotidiennement et qui en plus ne vous ont pas choisi, donc vous êtes vraiment en sursis pendant très longtemps. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage qu'on a eu. Et puis après, ça, je pense que...
C'est vrai ce point, parce que tu vois, juste avant qu'on enregistre, j'ai reçu un mail de mon fournisseur d'accès Internet au UK qui me dit vous allez recevoir de plus en plus de communications de la part d'Intel parce qu'en fait, on fait partie du même groupe et on est en train de regrouper sous la même bannière. Et c'est vrai que... Et en fait, cette marque, en l'occurrence, cette deuxième marque qu'ils m'ont citée, je viens de la quitter sur la partie téléphonie.
Ouais.
Donc tu vois, tu te dis, c'est vrai que moi, je n'ai pas choisi qu'ils soient maintenant sous ce groupe-là et en plus, je viens de les quitter. Donc, il y a un vrai sujet pour ceux qui n'ont pas choisi.
Ouais, et ça prend beaucoup de temps. Et du coup, plus les paniers de ses clients sont petits, plus du coup on va devoir aller. Et les gens, encore une fois, dans l'immobilier, ils ont besoin de rencontrer les gens. Et quand il y a des changements majeurs, enfin, moi je me souviens la première, je suis allé à Biarritz en train. Et ensuite, j'avais donc dans ma valise des coffrets de cadeaux bretons à déposer aux 50 clients qu'ils avaient. Mais du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur de temps, mais qui est ô combien important pour la réussite d'une intégration, quoi. Et ce qui est vrai avec les clients est aussi vrai avec les salariés. Donc nous, on l'a moins connu parce qu'il n'y a qu'une fois où on a repris des salariés. Et en plus de ça, ils n'étaient pas dans nos bureaux parce qu'ils sont sur le terrain à opérer des missions, etc. Donc ça a été, enfin voilà, pareil, là c'est un choc des cultures avec...
Vous êtes tous à Rennes?
Alors du coup on a des bureaux à Rennes, à Paris, et après on a deux personnes en coworking sur Nantes et sur Biarritz, et ensuite on a des opérateurs salariés qui sont dans le nord de la France, sur Nantes, sur Nancy et sur Lyon. Et du coup, eux sont en itinérance avec des véhicules, etc. Et c'est vrai que c'est difficile ces gens qui sont sur le terrain, de se sentir appartenir à l'entreprise, d'avoir la même culture d'entreprise, etc. Alors qu'ils ne nous ont pas choisis, encore une fois, parce qu'au quotidien, ce n'est pas ça qu'ils ressentent, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose où je considère qu'on a un peu échoué. Mais parce que, encore une fois, c'est des gens qui sont sur le terrain, qu'ils apportent de la valeur à l'entreprise, bah c'est sur le nombre de missions qu'ils vont faire. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, c'est les trois gros apprentissages qu'on a fait à ce niveau-là. Voilà, c'est bien travailler aussi les seuils, notamment lorsqu'il y a des earn-out, etc., pour vraiment modéliser toutes les options aussi bien favorables que défavorable, parce que notamment quand il y a des crises, comme c'est le cas à présent, c'est important d'avoir un modèle qui tient la route dans les deux cas, quoi.
Oui, qu'il n'y ait pas d'injustice ou autre, mais qu'en tout cas, voilà, ça ne mette pas à mal la société.
Oui, parce que si on a prévu que ça s'autofinance et qu'en fait on doit payer le double ou le triple parce que c'est la crise et qu'on n'arrive pas à faire les chiffres qu'on avait espérés, faut l'avoir anticipé, quoi.
Ouais, c'est jamais simple. Et tu as dit un point important, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on est dans un monde digitalisé, numérisé, la rencontre fait souvent la différence. Et là, en plus, quand tu es dans l'achat, si on pense le client final, qui est l'acheteur du bien immobilier ou le vendeur du bien immobilier, ou celui qui le met à disposition d'un locataire, ça reste normalement, enfin, en tout cas pour beaucoup, l'investissement le plus important de leur vie. Et donc, il y a une charge émotionnelle hyper importante et un lien affectif qui fait qu'on a surtout pas envie de se faire arnaquer ou de passer à côté de quelque chose.
Non, c'est ce qu'on a constaté, c'est que quand on travaille avec les particuliers sur la partie état des lieux, bien souvent c'est l'investissement d'une vie, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en moyenne les propriétaires ont entre 1 et 2 biens, et c'est généralement pour leur retraite ou ce genre de choses. Et c'est aussi à double tranchant, parce qu'ils ont l'impression du coup d'avoir château de Versailles, sans vouloir en tout cas y mettre tous les investissements qui sont nécessaires pour qu'ils ressemblent à un château de Versailles. Et donc du coup on était des fois un petit peu en désaccord, ou en tout cas le fait qu'on fasse trop bien notre travail sur le fait de noter des choses, eux ça les desservait, en tout cas c'est ce qu'ils estimaient, parce qu'on disait que potentiellement le bien il n'était pas nettoyé, en fait. Et donc du coup voilà, on s'est pris quelques commentaires négatifs sur des sujets comme ça, quoi.
Ça arrive, ça. Écoute, super, merci Thibaut, je vois l'heure qui passe et il est temps de conclure. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est quoi pour toi, c'est-à-dire quoi pour toi être entrepreneur ou entreprendre?
Comme je l'ai dit, ça va être propre à mon leitmotiv. Pour moi, entreprendre, c'est de passer d'une idée à une action et de le faire avec la plus grande liberté possible d'un point de vue créatif. Et c'est ce qui me motive, donc c'est ce que je dirais.
Hop. Dernière question, maintenant que toi t'es passé sur ce podcast, tu l'as expérimenté, qui parmi ton réseau d'entrepreneurs tu pourrais me conseiller de contacter, ou tu pourrais me mettre en relation avec, pour justement partager son expérience à mon micro?
Je recommanderais Gilles Boursy de Home Pilot, que je salue. Qui a une histoire assez incroyable, qui a depuis rejoint le groupe IAD, donc avec un M&A de sa propre start-up, mais qui du coup maintenant continue à faire du M&A d'acteur traditionnel. Et du coup, voilà, je trouve que c'est assez passionnant comme histoire.
Bah écoute, avec grand plaisir si tu peux me mettre en relation. Un grand merci à toi Thibaut pour cet échange passionnant et riche et qui pour sûr aidera nos auditrices et nos auditeurs. Il me reste vous tous justement qui nous écoutez à vous remercier pour votre fidélité, pour vos messages privés, pour vos commentaires publics, pour vos notes sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et autres plateformes d'écoute. Voilà, c'est pour vous que chaque semaine je publie un épisode avec un ou une entrepreneur pour vous faire gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Merci à vous pour votre fidélité et puis je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Bye. C'était Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs, le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.